passé une bonne semaine? C'est notre premier dimanche après la semaine de Pâques qu'on a vécue la semaine dernière. Donc si vous vous rappelez bien, on a fait tout le chemin de croix avec Jésus. On a rappelé toutes les étapes, ce qu'il a souffert jusqu'à la croix et après jusqu'à sa résurrection. Donc normalement, si on a compris ce que Jésus a fait, normalement on est complètement reboosté ce matin. Normalement, on a passé une semaine bénie. Normalement, le Seigneur vous a parlé. D'accord ? Ça, c'est important. Mais justement, on voit des fois qu'on peut comprendre certaines choses là. On a peut-être entendu, effectivement, que Jésus a souffert sur la croix, qu'il est mort, il a ressuscité 3 jours après. On le comprend. On l'entend dans notre tête qu'effectivement, il nous aime. Mais est-ce que c'est rentré dans le cœur? Parce que c'est ça le plus important. Pour que les choses changent avec le Seigneur, entre vous et le Seigneur, il faut que ça passe par le cœur. Sinon, en finale, ce n'est qu'une brève compréhension de ce que le Seigneur peut faire. Et en fait, on ne peut obéir qu'à Dieu, on ne peut faire sa volonté uniquement si on laisse l'amour de Dieu pénétrer dans notre cœur. Ça va, ça ? Un cœur fermé, ça peut arriver. Des fois, on n'a pas forcément envie de voir ce que Dieu peut faire dans notre vie, par peur, par plein de choses. Et en final, le cœur fermé ne peut pas recevoir l'amour de Dieu. Un cœur fermé ne peut pas avoir la révélation de la croix. Ça reste là, mais ça ne rentre pas ici. Un cœur fermé, même si on accepte intellectuellement la croix, ne permet pas de vivre pour Dieu. Et on voit bien qu'obéir à Dieu, ce n'est pas quelque chose d'automatique. Ce n'est pas parce qu'on vient régulièrement à l'église, tous les dimanches ou même un dimanche sur deux. Ce n'est pas parce qu'on est né dans une famille chrétienne également que les choses se font automatiquement, qu'on se lève le matin et on arrive à obéir à Dieu, etc., qu'on arrive à faire sa volonté. Déjà qu'on arrive à entendre ce qu'il nous demande, parce qu'avant d'obéir, il faut déjà entendre ce qu'il nous demande. Parce qu'en fait, Dieu a des choses à vous dire à chacun, tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, normalement, il vous demande quelque chose. Tous les jours, il vous demande de bénir quelqu'un. Tous les jours, il va vous demander de répandre son amour. Est-ce que ça, on l'entend? Dieu vous interpelle tous les jours. Il veut vous réveiller. Tout à l'heure, on a chanté Yahweh. Yahweh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire celui qui se révèle. Dieu veut se révéler, pas dans notre tête, dans notre cœur. Et c'est dans un cœur de chair, uniquement, que Dieu peut œuvrer. Et c'est quoi un cœur de chair? C'est un cœur qui est sensible à ce que lui veut nous dire. C'est un cœur qui est ouvert. Quoi qu'il veut nous dire, je suis capable de recevoir. Et c'est dans un cœur de chair que Dieu peut se révéler. Dans un cœur de chair que Dieu peut guérir, dans un cœur de chair qui peut nous sauver. Tant que l'amour de Dieu n'est pas rentré là, il est impossible de faire sa volonté. Et j'aimerais faire quelque chose ce matin, avant vraiment d'entrer dans la parole de Dieu, j'aimerais qu'on fasse un temps de prière pour commencer, pour que Dieu prépare vos cœurs à ce qu'il veut vous dire ce matin. Parce que je pense qu'on est dans une saison particulière. Au niveau de l'Église, des messages ont été faits il y a quelque temps aussi sur l'amour de Dieu. Et Dieu voudrait, je pense, aller plus loin. Et il veut toucher vos cœurs ce matin. Amen. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que ta parole puisse entrer dans nos cœurs ce matin. Nous voulons vraiment que tu changes nos cœurs, Jésus. Que tu nous ouvres à ce que tu veux faire en chacun d'entre nous ce matin. Tu es en train de préparer l'Église, Jésus. Et pour que tu puisses préparer l'Église, il faut que l'Église puisse avoir un cœur ouvert à toi. Je prie qu'il n'y ait plus de barrière entre nos cœurs et toi, Jésus. Amen. Je vous laisse ouvrir la parole de Dieu. J'espère que vous avez emmené vos Bibles ce matin. Parce qu'on ne vient pas à l'église sans amener nos Bibles, normalement. Et je vous laisse ouvrir la parole à Ézéchiel, chapitre 36, les versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Tu peux continuer encore un petit peu. Bon, sinon, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? En fait, ce passage de la Bible nous parle d'un moment donné particulier pour le peuple juif. Ils étaient dans l'obéissance. Ils étaient le peuple de Dieu. Ils étaient le peuple choisi de Dieu à ce moment-là. Et ils n'ont fait que désobéir à ce que Dieu leur demandait. Ils se sont éloignés de lui, au point où même ils ont dû être exilés. Ils sont partis de Jérusalem, la ville était complètement détruite, le temple de Jérusalem complètement détruit, et les voilà exilés dans une ville, Babylone. Et c'était une ville, à cette époque-là, qui était remplie de péchés, remplie d'idoles. Alors qu'est-ce que c'est que les idoles? Ça, on voit vraiment dans beaucoup de passages de la Bible, c'est tout ce qui est représenté les faux dieux. Et on peut voir même la définition d'une idole, si on veut aller plus loin, c'est tout ce qui remplace Dieu. C'est tout dans lequel on peut mettre notre confiance, notre sécurité, dans quelque chose qui est différent de Dieu. Et ça a été très grave pour eux. Parce que d'avoir complètement désobéi à Dieu, ils se sont laissés influencer par les populations sur place et ils ont complètement oublié leur Seigneur. Et qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Ils ont été humiliés, insultés. Ils ont vécu également de l'injustice. C'était les gens sur place, c'est du coup qui leur avaient volé toute leur propriété. Ils étaient sur une oppression permanente avec les ennemis sur place et il y avait une maltraitance même par les autorités religieuses de l'époque. Tout était catastrophique pour eux. Et à ce moment-là, Dieu, il s'était rappelé de l'alliance qu'il avait faite avec eux. Et malgré leur désobéissance, malgré leur éloignement, lui, il a voulu montrer qu'il les aimait. Et il a voulu leur montrer qu'il les aimait en justement en intervenant pour les secourir, en leur promettant justement qu'il allait tout restaurer. Et il a fait venir un homme, Ézéchiel, qui était un prophète à ce moment-là. Un prophète, c'est un porte-parole de ce que veut l'Éternel. Parce qu'à l'époque, l'Esprit Saint, effectivement, n'était pas dans le cœur de chacun. C'était uniquement les prophètes qui propageaient la parole de Dieu à ce moment-là. Et là, le prophète Ézéchiel a dit ce qu'on a lu tout à l'heure. Et avec la reconstruction aussi de leur ville, avec le retour à la terre promise, avec la promesse aussi qu'ils vivraient toujours dans la paix. Waouh ! Et eux n'avaient rien fait. Rien fait de bon. Ils n'ont fait qu'oublier Dieu. Ils ont fait n'importe quoi. Mais Dieu a tout promis. Et cette restauration promise que Dieu justement a voulu faire aussi à ce moment-là, ce n'était possible qu'en faisant une chose particulière. C'était en changeant les cœurs de son peuple pour qu'il soit capable de rester obéissant à Dieu. Et en fait, la Bible dit qu'ils avaient un cœur de pierre. C'est quoi un cœur de pierre? En fait, ils étaient insensibles aux appels de Dieu. Parce que Dieu leur appelait plusieurs fois à travers aussi la parole du prophète. Si vous lisez tout Ézéchiel, on voit bien que là, on est juste sur la fin du chapitre d'Ézéchiel. Mais il y a eu tout ça avant où Ézéchiel a dit justement « Arrêtez, arrêtez, vous attirez le jugement sur vous, vous faites n'importe quoi. Et ils ont continué, et pour eux, ça a été vraiment de pire en pire. Et en fait, voilà, la Bible dit aussi que c'est l'obéissance à Dieu qui produit une vie dans la paix, dans l'abondance, une vie de sécurité. Si on laisse Dieu uniquement, qui est le Dieu tout-puissant, s'occuper de nos vies. C'est pas quelque chose de terrible d'obéir à Dieu. Ce mot obéissance, aujourd'hui, il crispe. Il crispe tout le monde. On n'a plus envie d'obéir. On a envie de faire comme on a envie. Mais là, c'est une sécurité, l'obéissance. C'est se soumettre. On laisse Dieu justement s'occuper de nos vies. Parce que si nous, on devait s'occuper de nos vies, souvent, c'est un cauchemar. J'en parle pour moi. Pendant les 31 premières années de ma vie, je ne connaissais pas Dieu. Je n'ai pas vécu dans une famille chrétienne. Je ne savais même pas que la Bible existait. Et je peux vous assurer que j'aurais préféré connaître Dieu beaucoup plus tôt. Ça m'aurait épargné depuis bien longtemps. Et parfois, le message, si on parle de l'obéissance, on voit que c'est difficile aussi d'obéir au Seigneur. Combien de fois, par exemple, on vient le dimanche, on se dit « Waouh, merci Seigneur, merci pour messieurs le prédicateur, la prédicatrice, ton message était « Waouh, ça m'a touché !» Mais alors, la vie reprend son cours, lundi, mardi, mercredi, et on demande à la personne 3 jours après s'il se souvient du message. Plus rien. C'est pas vrai ou pas ? Parce que la parole n'est pas rentrée dans le cœur. Et ça, c'est vraiment quelque chose aussi qu'il faut retenir. Parce que si on ne laisse pas rentrer la parole de Dieu dans notre cœur, il sera impossible de bénir les autres. Parce que obéir au Seigneur, ce n'est pas une relation de soumission avec lui qui est là comme un méchant à nous taper sur la tête. Non, c'est une posture où on est là, et c'est une relation d'amour. C'est une relation d'amour entre un père et son enfant. On l'a chanté tout à l'heure aussi. Dieu, tu es un père. Tu es mon père. Et c'est toute la différence. Et quand on dit aussi d'obéir à Dieu, c'est aussi d'aimer. L'aimer lui, mais aussi aimer les gens. On parlait tout à l'heure aussi, merci Ricardo et merci Joël pour la parole, la réconciliation. On ne pourra pas aimer les autres, on ne pourra pas les bénir comme lui il veut si nous-mêmes on n'est pas capable d'entendre et de faire rentrer la parole dans notre cœur. Très important de comprendre ça. Voilà, je ne sais plus où. Hop, excusez-moi. Voilà. Et en fait, au niveau aussi de... Hop, excusez-moi, je me suis trompée de sens. Voilà. Donc voilà, on pense des fois que le message même ne nous a pas forcément touché, parce que peut-être aussi que le prédicateur, en fait, il a mal fait son travail aussi, peut-être. On peut se dire, le mot... Ça ne m'a pas touché plus que ça, parce que ça me touchait pas moi, ça devait toucher quelqu'un d'autre. Et on se dit des fois, c'est peut-être pas... Le prédicateur, il n'a peut-être pas fait son travail, ou peut-être que le problème, il vient aussi peut-être de la parole de Dieu, parce que là, on peut peut-être des fois remettre aussi en question la puissance de la parole. Et qu'est-ce que nous dit la Bible dans Hébreux 4:12 ? En effet... La parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et souvent, si on n'arrive pas à se soumettre à Dieu, ce n'est pas un problème de la parole, ce n'est pas un problème du prédicateur ou de la prédicatrice. C'est un problème avec notre cœur. Et qu'est-ce que veut dire le mot cœur ? Le cœur, en fait, ça vient de l'hébreu leb, et qui veut dire l'homme intérieur, avec tout ce qui est son esprit, sa volonté, sa compréhension au milieu des choses, connaissance, pensée, détermination, résolution, conscience, la morale. C'est le siège des émotions, c'est le siège des passions. Le cœur englobe tout notre être intérieur. Et dans le monde, on entend dire que, justement, il faut suivre ce que nous dicte notre cœur. Est-ce que c'est biblique, ça ? Est-ce qu'on doit suivre toujours ce que notre cœur nous dit ? Il y a même une expression qu'on dit « fais ce que ton cœur te dit ». On l'entend tout le temps, ça, en ce moment. C'est vraiment quelque chose qui est à la mode. Et en fait, des fois, si on vraiment on écoute notre cœur, on peut parfois, si on veut vraiment faire ce qu'on a vraiment dans notre cœur, ça peut des fois nous porter préjudice. Je vais vous donner deux exemples. Par exemple, vous êtes au travail, votre patron, il vous fait une réflexion parce que vous n'avez pas fait un truc correctement, parce que vous n'êtes pas arrivé à l'heure. Ah, des fois, il y a des fois une colère, un truc qui vient. Et puis, si on voulait faire ce que notre cœur nous dit, bim, allez, on lui met une tarte. Et bon, et qu'est-ce qui se passerait en tout cas si on fait ça ? Forcément, on risque d'avoir des problèmes, peut-être même de perdre notre travail. On est d'accord ? Une autre conséquence aussi qui peut se passer, par exemple, un couple marié avec de l'amour, d'accord ? La confiance, normal quoi. Mais si quelqu'un, à un moment donné, eh bien, il va attirer des personnes du sexe opposé et plusieurs personnes vont faire des yeux doux à l'autre et du coup, la personne va suivre son cœur. Ah bah, il m'appelle ou elle m'appelle. Ah bah, j'y vais. Et du coup, bah, ça risque de détruire un mariage. Ça risque de détruire une famille. Donc, si on devait suivre toujours notre cœur, on pourrait être confronté à quelques problèmes. Et en fait, ce que je veux dire, c'est que le cœur, il est capable de faire des choses bonnes, d'accord ? Tout n'est pas mauvais, mais il y a du mauvais. Et là, je vais vous dire, dans Matthieu 15, 19, que nous dit la Bible par rapport à notre cœur ? C'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, l'immoralité sexuelle, les vols, les faux témoignages et les calomnies. Ça va avec ça ? Nous avons hérité du péché, tous. Nous sommes tous humains et sur le plan spirituel, notre cœur est corrompu depuis la désobéissance d'Adam et Ève. Et depuis cette désobéissance, depuis que le péché est rentré dans ce monde, il est rentré dans notre cœur et on a été tous séparés de Dieu. C'est impossible de faire la volonté de Dieu depuis ce moment-là. Vous avez beau être né dans une famille chrétienne, vous avez eu beau aller à l'église peut-être depuis toute votre vie, sans la révélation de Jésus-Christ, il est impossible d'obéir au Seigneur. Et par rapport à notre cœur, il y a toujours cette partie, l'humain est capable de faire des fois des choses extraordinaires. Même si notre cœur est corrompu, des fois on se dit mais des fois les gens arrivent à faire des trucs de fous quoi. Ils peuvent monter des associations caritatives, des choses qui peuvent être extraordinaires avec un impact extraordinaire, mais il y aura toujours quand même une racine qui sera mauvaise. Et quand je parle de racine, je pense aux mauvaises herbes qui poussent tout le temps dans notre cœur. Et on a beau les arracher, vous savez les mauvaises herbes, d'ailleurs on va commencer le jardin avec, avec les mauvaises herbes qui sont là, vous avez beau les arracher, elles repoussent tout le temps. C'est pareil dans notre cœur. Il y a quelque chose en nous qui est tout le temps là. Et il faut régulièrement qu'on arrache tout ça. Et il n'y a qu'à voir aussi les enfants en bas âge. Des fois, on se dit « Oh, ils sont mignons !» Alors attendez, je vais pas décourager ceux qui veulent prendre en charge les enfants ce matin. Ce sont des amours, les enfants. Moi, j'aime énormément les enfants et tous les enfants. Mais voilà, les enfants en bas âge, ils ont beau être nés dans une famille chrétienne, je peux vous assurer, venez chez nous, venez un jour, venez chez nous. Vous allez voir, ça se tape, ça ment, ça se jalouse, ça se chamaille, etc. Et c'est en elle. On les aime, nos enfants. Pas de souci. Mais c'est en elle. Et ça, on n'y peut rien. D'accord ? Donc au départ, nous avons tous un cœur de pierre. Un cœur où nous ne pouvons pas obéir à la parole de Dieu. Donc un cœur de pierre, si je le redéfinis, c'est un cœur qui est insensible à la parole. Un cœur qui peut être dur. Un cœur qui peut être indifférent. Et des fois même, en fonction de ce qu'on peut avoir subi dans notre passé, on peut des fois ne même plus vivre d'empathie. On voit des fois les gens qui vivent des choses terribles et on n'est même plus capable de ressentir leur détresse. Il n'y a aucune émotion. Vous savez, des fois, il y a des personnes qui vivent des choses incroyables et en fait, ils sont impassibles. Aucune réaction sur leur visage. On ne voit même pas la joie. Ils ne sont plus capables de ressentir certaines choses. Mais Dieu a toujours voulu, justement, qu'on vive quelque chose avec lui. Quelque chose de grand. La réconciliation. Il a toujours voulu, justement, cette réconciliation. Parce que la relation avec lui était impossible, avec notre cœur de pierre. Mais lui, il a toujours voulu, justement, nous retrouver. Et pour ça, il avait prévu une chose. Et merci aussi pour la parole qui a été donnée, parce qu'on est complètement dedans. Il veut nous donner un cœur nouveau, un cœur qui est capable d'entendre ce qu'il a à nous dire, un cœur qui est capable de lui obéir et d'occulter effectivement nos propres envies à nous, notre confort, mais de l'aimer seul. Il veut qu'on ait un cœur où on puisse être dans l'unité, les uns avec les autres. Un cœur aussi dans l'unité vis-à-vis aussi de l'extérieur de l'Église. Il veut qu'on ait un cœur passionné pour lui. Il veut qu'on ait un cœur pour l'adorer, pour le mettre en premier. Un cœur pour l'aimer. Rappelez-vous le premier commandement. Qu'est-ce que le Seigneur a dit ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais on ne peut aimer le Seigneur de tout notre cœur que si on a un cœur nouveau. Ce n'est pas possible autrement. Et comment Dieu va s'y prendre ? Si on relit le verset 26, tu peux peut-être remettre, Roger, s'il te plaît. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Alors, je vous rassure ce matin, il n'y a pas de transplantation cardiaque qui est prévue. On est d'accord que c'est une démarche spirituelle. Et qu'est-ce qu'un cœur de chair ? C'est un cœur qui est donc à l'opposé du cœur de pierre. C'est un cœur qui est sensible à ce que Dieu veut dire. C'est un cœur qui laisse la parole de vie entrer afin d'y mettre la lumière. Parce que justement, cette lumière vient ôter de notre cœur tout ce qui n'est pas bon et tout ce qui est en opposition avec lui. C'est un cœur qui se laisse transformer, renouveler continuellement. Dans quel but ? C'est de ressembler à Christ. On ne peut pas venir à l'église juste avec cette idée « je viens parce que c'est mon habitude ». Non. Si vous venez avec ça dans votre tête, vous allez errer. Et rien va ne se passer. Parce que tout doit démarrer dans votre cœur en premier. Ça va ça ? Et on ne peut pas changer notre cœur tout seul. On ne va pas se réveiller un jour le matin, hop là, c'est bon, j'ai un cœur nouveau. Non, ce serait trop facile. Bon, il faut quand même une part de nous. Il faut quand même une part de volonté personnelle. Parce que déjà, il faut le vouloir. Il faut le vouloir que Dieu change notre cœur. Donc savoir où on en est, nous. Et si on veut aller plus loin, si on veut entendre ce que Dieu a à nous dire, si on veut l'aimer et aimer les autres et faire sa volonté, parce qu'on a tous un plan, chacun ici a un plan sur sa vie. Et le but, c'est de rentrer dedans. Donc il faut déjà voilà, qu'on ait une volonté propre de vouloir laisser Dieu changer notre cœur. Et si on le laisse faire, oui, là, il agit. Et c'est pour ça qu'il faut les deux. Il faut nous, mais il faut aussi l'Esprit Saint qui rentre en nous. Et c'est lui qui nous révèle justement ce que Dieu a fait à la croix. Jésus est mort à la croix, les amis. Il nous a montré son amour inconditionnel. Nous tous, on avait une vie d'état de péché. On a fait n'importe quoi, peut-être pour la plupart, on s'est égaré, on a fait du mal peut-être. Moi, j'en ai fait du mal aussi. Mais Dieu m'a toujours aimé. Et il est mort pour moi. Je le sais. Il a souffert. Son sang a coulé pendant des heures et des heures. Pour moi. Et pour toi aussi. Chouan, Jésus est mort pour toi. Brigitte, Jésus est mort pour toi. Sébastien, Jésus est mort pour toi. On ne peut pas passer à côté de ce que Dieu a fait pour nous. Ce n'est pas possible. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jean 3,16, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Waouh ! On n'est pas capable de nous sauver tout seul. On a beau faire des actions, de faire des choses bien pour les gens, ça ne nous donne pas accès à la vie éternelle. C'est notre foi en lui, notre foi en Jésus seul qui nous permet d'accéder à cette vie éternelle. Des fois, on va se dire, oh, je ne suis pas parfait, je dois faire certaines choses pour qu'il m'aime. Vous n'avez rien à faire pour que Dieu vous aime. Rien à faire. Il vous aime tout simplement. Quoi que vous ayez fait. Et c'est lorsqu'on comprend l'amour inconditionnel que Dieu, que c'est là que tout peut se passer. Et c'est là qu'il y a un vrai démarrage dans la vie avec Dieu. Parfois, la révélation est immédiate. Pour ma part, je pense que ça a été assez rapide. Le jour où j'ai mis un pied dans l'église, j'ai pleuré toute la journée. Toute la journée. Andy me disait, mais parce qu'il n'avait pas voulu venir avec moi au départ. Et je suis revenue de l'église, je ne faisais que pleurer. Il m'a dit, mais qu'est-ce que t'as fait? T'es sûre que t'es allée à l'église? Je me dis, tu ne peux pas comprendre. Et vraiment, j'ai eu vraiment la révélation, je n'ai pas tout compris. J'ai pas compris encore la croix, tout ça, la signification de chaque étape. J'avais compris que Dieu m'aimait. Et c'est ça m'a bouleversée, vous pouvez pas vous imaginer. Et ma vie a changé depuis ce jour-là, premier jour mis à l'église. Mais pour certains, des fois, ça prend du temps. Parfois, le cœur peut être changé au fur et à mesure. Ça peut prendre du temps. Et c'est pas grave. On ne peut pas se comparer les uns et les autres. Parce que parfois, on a vécu des choses dans notre passé. Et plus on a vécu des choses difficiles, et plus il est difficile, des fois, d'ouvrir notre cœur, de passer d'un cœur de pierre à cœur de chair, afin d'avoir un cœur nouveau. Et vous savez quoi, c'est pas grave si ça prend du temps. Des fois, c'est un processus. Et on y va doucement. Un cœur d'enfant, si on voit un petit peu comment se portent les enfants, vous leur dites quelque chose, ils y croient toujours. Pour ça, il faut faire attention à ce qu'on dit aux enfants. Si on dit des paroles dures à un enfant, il va le croire. Et parfois, on peut vivre des choses, nous, en tant qu'adultes, on peut avoir vécu des choses enfants, on peut avoir entendu des injustices, on peut avoir vécu certains traumatismes, et ça peut causer de graves dégâts, jusque dans la vie d'adulte. Et vous savez, on entend dans le monde que le temps guérit. Je peux vous assurer que c'est faux. Le temps ne guérit rien. Et il y a même très souvent un mécanisme de défense qu'on fait très souvent quand on a vécu des choses, c'est qu'on les refoule, on les garde à l'intérieur, loin, loin, cachés. Et on a un cœur de pierre, mais on met même un mur de protection, une muraille même, tout autour de notre cœur. Pourquoi on fait ça ? Pour la plupart du temps, c'est qu'en fait, que les souvenirs, des fois, sont tellement horribles qu'on préfère les cacher pour ne plus les voir à nouveau et ne plus vivre ce traumatisme. J'ai relevé 5 types de blessures. Je ne suis pas là pour pointer le mal, d'accord ? Je vais essayer de vous montrer un petit peu ce qu'on peut vivre, mais dans le but aussi d'apporter une solution. Dieu ne va jamais pointer les problèmes sans apporter une solution. Amen. Les 5 types de blessures que j'ai relevées, elles se trouvent dans les initiales T-R-A-H-I. Trahi. Première, pour le T, trahison. Par exemple, quand celui qui est censé vous aimer, vous protéger, vous fait du mal, physiquement et ou émotionnellement. Et le mal, on peut le vivre de plein de manières différentes. Le rejet, pour la lettre R. Quelqu'un qui sait qu'il n'a jamais été désiré, par exemple. Ça, c'est terrible aussi. Quelqu'un qui a subi du favoritisme par rapport aux frères et sœurs. Ça, c'est terrible aussi. Et on ne comprend pas. L'autre type de blessure, l'abandon. Ça peut être causé par un deuil d'un des deux parents ou des deux. Ça peut être aussi être causé par une séparation d'un des deux parents et un parent qui part et qu'on ne revoit pas ou très peu. L'autre blessure que j'ai relevée, c'est l'humiliation. Si justement on a trop entendu « tu es un bon à rien » ou « une bonne à rien », « tu es incapable », on t'a donné des surnoms humiliants. Ça marque aussi quelqu'un. Et l'injustice, le fait de se faire maltraiter sans raison. Et ça, on peut le vivre en tant qu'enfant, avec d'autres enfants. Puis la fratrie, tout l'entourage. Et toutes ces blessures ont des conséquences émotionnelles jusqu'à l'âge adulte. Par exemple, on peut vivre dans la crainte. On peut être toujours sur la défensive. On a une attitude solitaire. On préfère rester loin des autres. Ça peut engendrer aussi de la dépression. Ou encore à l'inverse, de l'agressivité, une colère à l'intérieur. Ça peut aussi engendrer une attitude négative, à toujours se plaindre, tendance à critiquer, avec une incapacité à se sentir aimé. Peur de l'échec aussi, j'ai relevé. Et du coup, dans la peur de l'échec, il y a aussi le fait de n'accepter aucune critique, même quand elle est positive. Et ces blessures, on est nombreux à en avoir subi. Nombreux. Certains, des fois, on pense qu'on est tout seul à les avoir vécues. Mais on est nombreux dans cette église à être passés par là. Et ça freine notre marche avec le Seigneur. Dans tous les domaines aussi de notre vie. Et si elles ne sont pas guéries, elles vont ressortir d'une manière ou d'une autre. Le temps ne guérit pas, les amis. Elles ressortent. Et ça ressort, par exemple, on a quelqu'un qui nous fait une remarque. Hop là ! Et bien du coup, on a la colère vis-à-vis de l'autre personne. On ressent ça. On a du mal à accepter les remarques. Certains peuvent tomber aussi dans des addictions, dans tout genre. Et il y a aussi le risque aussi, quand on est face à un défi dans la vie, on a tellement peur des fois qu'on est complètement paralysé et incapable de prendre la moindre décision. Et les conséquences aussi, sur le plan spirituel, là je vais aller un petit peu plus loin, on en a pas mal. Par exemple, déjà, ça veut dire qu'on a un cœur qui est complètement emmuré. Ça veut dire qu'on ne laisse rien sortir, mais on ne laisse aussi rien rentrer. Impossible d'avoir une communion avec Dieu dans ces moments-là. On parlait de la réconciliation. Ce n'est pas possible. Tant que ce cœur est complètement fermé. Des fois, je vois des gens qui louent le Seigneur, ils sont comme ça. Vous savez, le corps, il peut parler aussi d'une certaine manière. Et des fois, on est complètement comme ça, fermé. Donc, c'est impossible d'entendre ce que Dieu a à nous dire si on est complètement emmuré comme ça. La communion aussi avec les frères et les sœurs, c'est compliqué. Si on a tendance à vouloir toujours s'isoler, à ne pas dire trop de choses sur nous. Voilà, il ne faut pas qu'ils sachent. S'ils savaient qui j'étais, ils me jugeraient, ils ne m'aimeraient plus. Non, ça met une barrière. C'est important. Cherchons la relation de confiance entre les uns et les autres. Dieu nous demande de nous aimer. Vous savez, la croix, c'est la communion avec lui et nous, et c'est la communion entre nous tous. Et il y a aussi une conséquence, c'est que, on parlait tout à l'heure de quelqu'un qui tourne en rond, c'est comme si vous voyiez un entonnoir. Vous êtes au-dessus de l'entonnoir. Oui, Dieu m'aime, je sais qu'il m'aime, ça reste là. Mais tant que ça ne rentre pas là, vous pouvez tourner. Mais non, Dieu vous demande d'aller au fond. Et vous pouvez passer toute votre vie à tourner, à revenir en arrière sur certaines choses. Il faut lâcher prise des fois. Lâcher prise, laisser Dieu faire. Parce que sinon, c'est une perte de temps. L'autre conséquence, on le voit aussi dans la parole de terrain. J'ai vu dans Matthieu 13, 21. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux, donc c'est le cœur dur comme la pierre, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la foi, en final, elle n'est pas solide. Si on ne laisse pas pénétrer Dieu dans notre cœur, c'est qu'une foi, une idée d'une foi. Mais ce n'est pas la foi qui transforme. Et à la moindre difficulté, à la moindre épreuve, on abandonne tout. On abandonne l'Église et on abandonne peut-être même Dieu. Et ça, c'est terrible. C'est terrible pour l'éternité de quelqu'un. Et l'autre conséquence, c'est une vie avec peu de puissance. On peut passer toute notre vie sans jamais avoir vécu un miracle. Parce que quoi, on n'aura pas laissé justement le Saint-Esprit rentrer. Il y a une expérience spirituelle que Dieu a promis pour tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est quand l'Esprit Saint vient en nous et nous fait justement, nous donne une puissance capable justement de libérer les gens, de guérir, faire des délivrances avec des dons de prophétie, etc. C'est ça la vie. C'est ça la vie avec Dieu. C'est pas aller à l'église le dimanche. C'est beaucoup plus que ça. On peut voir la vie des gens transformée grâce à nos vies, grâce à ce que Jésus peut faire. C'est pas nous qui faisons. C'est Dieu en nous qui guérit les gens. Et en fait aussi, le baptême du Saint-Esprit, tant qu'on a ce cœur fermé, tant qu'on reste dans le contrôle de ce qui rentre ou de ce qui sort, vous ne pourrez jamais le vivre. Il faut vraiment laisser votre cœur ouvrir, s'ouvrir. Et là, j'aimerais qu'on aborde maintenant la dernière partie, c'est la solution. Parce que Dieu est bon. Dieu vous aime. Et il n'a jamais voulu que vous restiez dans des blessures subies, avec des conséquences qui durent pour toujours. Dieu a apporté la solution une bonne fois pour toutes. On l'a étudié la semaine dernière, lors du chemin de croix. Jésus est passé par plusieurs épreuves. Et une des épreuves qu'il a subies, c'est les coups de fouet. Les coups de fouet, la Bible ne nous dit pas combien de coups de fouet il a pu recevoir, mais il y a un passage dans la Bible qui nous dit qu'à partir de 40 coups de fouet, la personne était décédée. Donc on ne sait pas. Et les fouets utilisés étaient de deux sortes. Le premier, donc c'était un morceau de cuir tressé au bout duquel se trouvaient des lanières avec des morceaux d'os et des petits osselets. L'autre fouet avec lequel il a été fouetté, c'était avec des morceaux de métal repliés qui, quand le soldat arrachait son fouet, ça arrachait la peau de Jésus. Imaginez cette souffrance. Imaginez, son sang a coulé, coulé, coulé. Et ce n'est pas sans raison qu'il a accepté. Parce que tout ça, il l'a subi par choix. Personne ne l'a forcé. Il aurait très bien pu se cacher et éviter ça. Non, il a fait ce choix de subir ça. Et il n'a pas fait ça sans raison. Son sang a coulé à ce moment-là pour nous apporter la guérison physique et aussi au niveau de l'âme. Lisons Ésaïe 53,5. Ésaïe, juste pour vous dire, c'était un prophète dans l'Ancien Testament qui a promis justement... c'est plutôt une annonce de Jésus aussi, de ce que Jésus allait faire. C'était 700 ans avant la venue de Jésus. Vous voyez bien, Dieu a tout prévu. Il avait déjà tout annoncé et plusieurs centaines d'années avant. La punition... tu peux lire où ? Moi, je voulais juste... Ouais, je vais lire ça avec vous. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Waouh. Il a déjà tout fait, Jésus. Il a tout fait. En t'approchant de la croix ce matin, tu peux faire ce choix de confier, donner tes blessures justement du passé. Et il se fait un échange à la croix. Tu donnes tes blessures. Tu donnes tout ce qui t'a fait du mal. Et en échange, tu reçois la liberté, la paix, une nouvelle identité en lui et surtout la vie éternelle. Waouh! Ça peut se faire progressivement. Ça ne va peut-être pas se faire tout en une journée. C'est un chemin. Mais c'est déjà un choix qu'il faut faire. C'est par la relation avec Dieu aussi qu'il y aura la restauration. Uniquement si on sait qu'on est aimé de lui. Tout change à partir de ce moment-là. Si vous savez que vous avez vécu des blessures, des traumatismes, et que vous les avez enfouis, que vous avez peur de les voir en face, dites-vous qu'à partir d'aujourd'hui, vous n'êtes plus seul pour les affronter. Demandez au Seigneur d'ouvrir vos yeux. Permettez-lui de mettre un baume de guérison sur votre cœur. En recevant Jésus, vous recevez aussi une puissance pour libérer la vie en vous. Il y a un verset extraordinaire qu'on trouve dans Jean 7, 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui. Waouh ! Ça veut dire que vous pouvez avoir la vie en vous. Waouh ! Les fleuves d'eau vive. Ça veut dire qu'on peut avoir cette vie qui coule en vous. Cette vie qui restaure cette vie, mais cette vie aussi qui peut guérir et bénir tant de gens autour de vous. Et on ne peut pas donner la vie aux gens si nous-mêmes on ne l'a pas reçue. On doit d'abord se laisser guérir. On doit accepter d'ouvrir notre cœur de pierre. Vous savez, des fois, il se passe des choses même quand on permet des petites fissures au niveau de son cœur. Les petites fissures. C'est comme un barrage. Imaginez un barrage. Vous avez de l'eau en abondance de l'autre côté. L'eau qui est promise pour vous. Et vous avez un terrain qui est sec de l'autre côté. Imaginez, on entend des fois, on entend qu'il y a certains barrages, il y a de l'eau qui passe. Des fois, c'est un tout petit filet d'eau. Et puis, il y a un filet d'eau, puis un deuxième filet d'eau. Et à un moment donné, les filets d'eau ils deviennent un peu plus nombreux, un peu plus importants. L'eau passe, elle passe quand même. Et à un moment donné, qu'est-ce qui se passe? Le barrage, il se pète. Et l'eau, elle se répand. La vie, elle se répand de façon abondante. C'est ce que Dieu voit. Et c'est ce que Dieu veut pour vous. Et commencez peut-être, pour avoir ces fissures, commencez peut-être par lui exprimer vos émotions. Des fois, on se dit, la colère, c'est pas bon, je suis un chrétien quand même. Je peux pas être dans la tristesse, je peux pas me plaindre. Mais le fait de montrer qu'on est en colère devant Dieu, c'est permis. Regardez les psaumes, regardez ce que David a dit à Dieu. Il s'est complètement déchargé. Lui, il n'en avait que faire de ce que les gens pensaient de lui. C'était entre lui et Dieu. Et il a déchargé toute sa colère. Ça, c'est bon signe. Si vous arrivez à faire ça avec le Seigneur, c'est dire que vous acceptez de faire sortir quelque chose de votre cœur. Ça veut dire que vous permettez une fissure aussi. Et Dieu, à ce moment-là, il peut revenir. Et il peut guérir. Il peut restaurer. Et vous pouvez tout recommencer. Parce que vous pouvez le laisser à ce moment-là, le prendre soin de vous. J'ai un dernier verset qui dit aussi, je vous le dirai après, mais des fois, effectivement, on n'a pas fait confiance. Enfin, on a voulu faire confiance à des gens qu'on aimait et qui nous ont fait du mal. L'être humain, des fois, est capable de faire des choses atroces. Mais quoi que vous ayez pu vivre, ce n'est pas la faute de Dieu. Dieu n'était pas là dans ces histoires. D'accord ? Faites la paix avec ça. Mais Dieu veut vous restaurer. Il veut que vous alliez de l'avant. Il veut que vous fassiez confiance en lui. Et le verset que je voudrais partager, c'est dans Romains 10, 11. Quiconque place en lui sa confiance ne sera pas déçu. Si tu as été déçu par les hommes, tu ne seras jamais déçu par le Père. C'est un Dieu qui aime. Et en conclusion, je voudrais juste vous dire, encore une fois, que Dieu nous a toujours aimés. Tous. Depuis toujours, avant même qu'on naisse. Dans le ventre de notre maman, il nous aimait déjà. Il avait prévu quelque chose pour chacun d'entre nous. Ce qu'il désire aujourd'hui, c'est qu'on réponde à son appel, pour qu'on l'autorise à nous bénir, à nous guérir. La seule chose qu'on a à faire aujourd'hui, c'est lui faire confiance. Laissons-le entrer dans nos cœurs. Laissons-le changer notre cœur de pierre en cœur de chair. Tout ce qu'il dit, vous savez, tout ce que Dieu a dit, il l'a toujours accompli. On a un Dieu qui est juste et qui ne faillit jamais. Jamais. Qu'on puisse vraiment laisser Dieu changer notre cœur, qu'il devienne sensible, réceptif. Et uniquement à ce moment-là, on sera capable d'accomplir sa volonté, marchant de victoire en victoire et propageant sa gloire partout où nous serons. Amen. On va faire un temps de prière. Petite musique, Roger. Pour ceux qui préfèrent rester assis, restez assis. Ceux qui veulent se lever, se lèvent. Chacun fait comme il veut devant le Seigneur ce matin. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on voit de l'extérieur. Dieu, il veut votre cœur ce matin.